nous vivons une époque formidable.
Quoique.
Bienvenue dans les matinales de Bartas.
À partir de 8h30.
Quoique.
Le lundi, le mercredi.
Beaucoup de local.
Et puis, un peu d'autre chose.
Les matinales de Bartas.
En direct.
Sur le 107 FM.
J'ai retrouvé mes lunettes. Wow.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107, nous sommes le mercredi 31 mars, il est 8h30. Allez, on saura sans doute ce soir à quelle sauce on va être mangé, confinement, pas confinement, espérons en tout cas qu'il n'y aura pas de blague en cette veille de 1er avril. Et oui, et si nous sommes jeudi, cette matinale est rediffusée justement le jeudi 1er avril. Au programme justement de cette matinale, dans un instant, nous partons à Mende. On y était dimanche pour la manif pour le climat, comme une petite centaine de personnes, hein, un petit timide, mais bon, petit pas par petit pas, en tout cas, on écoute le reportage dans un instant. Et puis en deuxième partie d'émission, on partira en balade avec Patrick, qui anime l'émission H1000, et lui exceptionnellement pas d'invité, ça arrive de se faire lâcher, on a beau parfois avoir quelques contacts, c'est pas simple, la veille à 20h, mais tout ça dans la joie et la bonne humeur. Il y aura de la musique évidemment comme d'hab, mais on commence, vous le savez, par l'édito, c'est parti.
On peut être en désaccord, mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Bartas. À plusieurs reprises en janvier dernier, Florence Parlier et Jean-Yves Le Drian ont affirmé que l'armée française n'avait commis aucune bavure en bombardant les environs du village de Bounti au centre du Mali le 3 janvier dernier. Qu'il n'y avait pas de mariage ce jour-là. Que tous les hommes tués lors de cette frappe étaient des combattants appartenant à un groupe de djihadistes. Que toutes les précautions d'usage avaient été prises afin de s'assurer qu'il n'y avait pas de civils dans l'eau. Mais si l'on se fie à un rapport que l'ONU vient de publier, les deux ministres mentaient. Rendu public mardi, ce rapport a été commis par la division des droits de l'homme de la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali. Il confirme ce que plusieurs médias français, parmi lesquels Mediapart, affirmaient quelques jours après la frappe, avoir recueilli plusieurs témoignages concordants. Il y avait un mariage ce jour-là à Bounti. Et c'est sur les hommes participant à la cérémonie que les bombes des avions français se sont abattues en début d'après-midi. Les rapports de l'ONU ne sont pas toujours exempts d'erreurs factuelles, mais celui-ci, produit par une cellule réputée pour son sérieux et qui, de l'avis d'un militant malien des droits de l'homme, réalise un travail remarquable de documentation des exactions au Mali et circonstanciées. Les enquêteurs, au nombre de 15, se sont rendus à Bounti avec le soutien de deux experts de la police scientifique de la MINUSMA. Durant plusieurs semaines, ils se sont entretenus avec des dizaines de personnes, parmi lesquelles des rescapés de la frappe. C'est un sujet tellement sensible qu'on a pris le plus de précautions possibles, souffle un membre de la division. Leur verdict est accablant, tant en ce qui concerne les faits que la lecture juridique qui en découle. Ce rapport est disponible assez facilement sur le net. Quant à la question qui se pose, mais qu'est-ce que l'armée française fout encore au Mali, la réponse est entre autres des grosses conneries. Allez, on part à Mende dans un instant, mais tiens, un morceau de circonstance.
Tu avais juste 18 ans quand on t'a mis un béret rouge, quand on t'a dit rentre dedans tout ce qui bouge. C'est pas exprès que t'étais fasciste, parachutiste. Alors de combat en combat, c'est former ton intelligence. Tu sais qu'il n'y a ici-bas que deux engeances. Les gens bien et les terroristes, parachutistes. Puis on t'a donné des galons, héros de toutes les défaites, pour toutes les bonnes actions que tu as faites. Tu torturais en spécialiste, parachutiste. Alors sont venus les honneurs, les décorations, les médailles, pour chaque balle au fond d'un cœur, pour chaque entaille, pour chaque croix noire sur ta liste, parachutiste. Mais malheureusement pour toi, bientôt se finira ta guerre. Plus de tueries, plus de combats, que vas-tu faire? C'est fini, le travail d'artiste, parachutiste. C'est plus qu'un travail de nana, de commander à ceux qui savent lire. Surtout que t'as appris avec moi ce que veut dire le mot antimilitariste, parachutiste. T'as rien perdu de ton talent, tu rates pas une embuscade, mais comme on tire plus vraiment, tu trouves ça fade. C'est peut-être pour ça que t'as les yeux tristes, parachutiste. Mais si t'es vraiment trop gêné d'être payé à ne rien faire, tu peux toujours te recycler chez tes petits frères. Je crois qu'on engage dans la police, parachutiste.
Dimanche 28 mars, nous étions une petite centaine à Mende à manifester pour le climat. Pourquoi ? Entre autres pour l'urgence climatique, évidemment, mais c'est aussi parce que la loi climat a été débattue le lendemain à l'Assemblée nationale. Et c'est bien de ça dont il est question.
Elle arrive donc demain devant l'Assemblée nationale avec cet arrière-goût amer de lassitude, d'incompréhension et de manque de cohérence de nos dirigeants. Monsieur Macron, comme vous l'a rappelé Cyril Dion, un des garants de la Convention citoyenne, vous n'avez pas tenu votre promesse. Vous aviez promis que les propositions faites par les 150 citoyens tirés au sort seraient reprises sans filtre. Mais nous n'avons pas dit notre dernier mot. Nous sommes là, nous avons bravé l'heure de sommeil en moins et l'envie d'aller faire un saut à la mer pour libérer nos esprits acculturés depuis trop longtemps. Pour autant, les privations de liberté ne ramollissent pas nos cerveaux et notre envie d'agir. Nous sommes ici à Mende, un peu nombreux, pour montrer notre indignation. Pendant 17 mois, les 150 membres de la Convention citoyenne ont travaillé dur pour établir des propositions pertinentes et prometteuses afin de lutter contre le réchauffement climatique qui n'est plus à démontrer. Avant de tirer leur révérence, les 150 citoyens ont tiré un bilan très amer de la prise en compte de leurs 149 propositions par l'État. Et si leur mission est aujourd'hui terminée, la planète, quant à elle, continue de se réchauffer. Alors pour que tout leur travail ne tombe pas aux oubliettes, nous avons souhaité réagir en répondant à l'appel à la mobilisation nationale.
En effet, le gouvernement n'a pas véritablement donné suite à leurs mesures. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour apporter notre soutien pour que les 149 propositions de la Convention citoyenne pour le climat ne soient plus sous-représentées et tirées au rabais. Nous demandons aux députés de faire le travail que le gouvernement n'a pas fait, c'est-à-dire rehausser l'ambition de la future loi climat. Nous, citoyens, citoyennes, croyons en les mesures de la Convention citoyenne pour le climat et nous exigeons une loi climat ambitieuse. La crise sanitaire a montré la fragilité de nos sociétés. Redémarrer comme avant n'est pas une option. Alors que le dérèglement climatique frappe partout dans le monde, avec des catastrophes naturelles toujours plus nombreuses. Pour rappel, la loi climat de départ vise à réduire 40% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, donc demain. Les membres de la Convention citoyenne sont mécontents de la prise en considération de leur contribution et attribuent la note de 3,3 sur 10 au gouvernement avec un commentaire cinglant en rouge dans la marge, insatisfaisant. Et cette nouvelle loi répondra-t-elle aux objectifs fixés par le président de la République de baisse de 40% des gaz à effet de serre? Les 150 répondent par une note sans appel de 2,5 sur 10. Alors que tous les scientifiques nous rappellent combien il est urgent d'agir, on nous propose des mesurettes qui sont destinées à nous endormir et à satisfaire les lobbies, les banques et les entreprises avides de greenwashing. À titre d'exemple, alors que la récession suscitée par la pandémie a entraîné une baisse de près de 9% des financements aux énergies fossiles au niveau international, les banques françaises ont augmenté leur financement en moyenne de 19% par an entre 2016 et 2020.
Niquons la planète. planète.
Nous ne voulons pas d'une loi mijaurée qui ne soit pas à la hauteur de l'urgence et de l'ambition affichée au départ. Voici les axes sur lesquels nous voulons que la loi soit plus ambitieuse.
Alors, vis-à-vis de nos modes de consommation, tout d'abord. Si les gaz à effet de serre émis sur le territoire national sont en diminution, les émissions liées aux importations ont fortement augmenté. C'est donc bien la consommation qui doit diminuer, et ce, de manière drastique. Alors que l'empreinte carbone française était de 11,5 tonnes équivalent CO2 par habitant en 2018, elle devrait atteindre 2 tonnes en 2050 pour être cohérent avec l'accord de Paris. Consommer moins, mais aussi local, plus écologique, permettrait de recréer des emplois dans nos territoires. Deux mesures structurantes ont été proposées par la Convention. L'interdiction de la publicité pour les produits très émetteurs de gaz à effet de serre et les produits alimentaires déconseillés par le plan national nutrition santé, ainsi que la réduction du suremballage, notamment par la réintroduction de systèmes de consignes pour le réemploi.
Le deuxième axe concerne nos modes d'alimentation. L'alimentation représente un quart de l'empreinte de gaz à effet de serre des Français et le secteur agricole représente 19% des émissions territoriales de la France. Pour respecter nos objectifs climatiques, il faut engager une mutation écologique de l'agriculture et la promotion d'une alimentation durable, accessible à tous. Bénéfique pour la santé, créatrice d'emplois non délocalisables et dynamisant les territoires. Des mesures structurantes portées par la Convention citoyenne pour le climat portent sur la généralisation d'un choix végétarien dans la restauration collective, non basée sur le volontariat, l'accessibilité de tous à une nourriture de qualité, la transformation du modèle agricole via la création d'une redevance sur les engrais azotés chimiques et le financement pour une mutation de l'élevage vers de l'élevage durable. Une redevance de 27 centimes permettrait de financer les alternatives comme l'agriculture biologique et les cultures de légumineuses à hauteur de 500 millions par an. L'idée de la redevance était d'intégrer le coût de la pollution, de la santé, dans le prix des engrais, sachant que 1 kg d'engrais, c'est 1 kg de pétrole.
Le troisième axe concerne nos modes de déplacement. Le transport est le secteur qui contribue le plus, à hauteur de 30%, aux émissions de gaz à effet de serre de la France. Alors qu'elle devrait tendre vers zéro en 2050, les émissions des transports ont augmenté de 13% depuis 1990. En cause, les faibles améliorations de la consommation énergétique des véhicules qui ne parviennent pas à compenser l'augmentation du poids moyen des voitures et du trafic routier, et la faiblesse du report vers des modes de transport moins polluants comme le train. De même, la croissance continue du trafic aérien international n'est pas compatible avec la maîtrise du dérèglement climatique. Le secteur des transports doit opérer des changements structurels qui passent notamment par l'interdiction de la commercialisation de véhicules neufs très émetteurs, la mise en place d'un prêt à taux zéro garanti par l'État pour l'achat de véhicules peu émetteurs, la réduction durable du trafic aérien, le développement massif dans le transport ferroviaire et le désenclavement de nos territoires ruraux, mais aussi la sortie des avantages fiscaux dans le transport routier. Misons sur la mobilité douce.
Le quatrième axe donc concerne nos modes de logement. Deux objectifs essentiels pour réussir la transition écologique. Rénover le parc de bâtiments de la France au niveau bâtiment basse consommation d'ici à 2050. Et respecter l'objectif zéro artificialisation nette en 2030, ce qui suppose une réduction de 70% au niveau actuel d'artificialisation. Pourtant, la rénovation des logements ne progresse pas, car les mesures incitatives ne suffisent pas pour augmenter leur nombre et leur performance énergétique, tout en assurant que les ménages précaires soient les premiers bénéficiaires de cette politique. Une mesure structurante pour réduire l'artificialisation des sols et de favoriser le commerce de centre-ville et de limiter le suréquipement commercial. Pour remédier à l'impact climatique du secteur du bâtiment, il s'agit de mettre en place progressivement une obligation de rénovation énergétique globale et performante des logements, car il y a 5 millions de passoires énergétiques en France sur 33 millions de logements. Il faut aussi limiter l'artificialisation des sols en prenant des mesures coercitives pour stopper les aménagements de zones commerciales périurbaines.
Le dernier axe, après on vous libère, concerne nos modes de production et de travail. Le respect de l'objectif de neutralité carbone demande une transformation de notre système économique. Bien que le bilan global de l'évolution des emplois liés à la transition écologique soit positif, de nombreux secteurs vont devoir changer, voire diminuer leurs activités. Deux mesures particulièrement structurantes seraient, d'un côté, un accompagnement de qualité des salariés pour assurer des reconversions professionnelles. Il y a des scénarios de transition écologique qui calculent un potentiel de 300 à 400 000 créations d'emplois. Et de l'autre côté, une obligation pour les entreprises de s'aligner sur une trajectoire de baisse des émissions cohérente avec le respect d'une hausse maximale de 1,5 degré à l'échelle planétaire. La transformation des entreprises et les reconversions professionnelles sont inévitables. Il sera nécessaire d'obliger les grandes entreprises à renforcer la transparence sur leur empreinte carbone et à réduire leurs émissions chaque année. Comme l'a si bien dit Gilles Deleuze, philosophe, le système nous veut triste, mais il nous faut arriver à être joyeux pour lui résister. Alors, partons joyeux en résistance.
J'ai fait un rêve d'une guerre mondiale nucléaire où les enfants d'Adam et Ève s'entretueraient comme des frères. I have a dream, oui j'ai rêvé d'un tsunami, tremblement de terre qui détruirait l'humanité, nous enverrait tous.
Alors est-ce qu'à ton avis ça sert encore à quelque chose de se mobiliser vu qu'on est déjà dans le mur?
Eh bien je vous laisse la responsabilité de cette dernière remarque. Je pense que déjà être présent aujourd'hui en dehors de la problématique du climat, bon, c'est un petit peu montrer qu'on est encore vivant et qu'on n'est pas encore tous terrifiés, cloîtrés chez nous en regardant BFM. Et puis aussi de dire que oui, on n'a pas cessé de se préoccuper de ce qui nous a amené dans cette situation, c'est-à-dire le saccage des écosystèmes et la mondialisation complètement folle qui ne nuit pas qui ne nuit pas que dans les domaines climatiques, mais aussi dans les domaines sanitaires, comme nous pouvons le voir en ce moment. Voilà.
Lundi, il y a la loi climat qui va être discutée à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'à ton avis, elle va changer quelque chose? Tout le monde dit qu'elle n'est pas suffisante.
On espère toujours que un petit peu de courage politique et que nos dirigeants s'affirment un peu vis-à-vis des lobbies qui leur dictent plus ou moins les amendements clés en main, quoi. On espère toujours qu'ils fassent un petit peu leur boulot de politique, un petit peu.
Bien sûr. Merci, je t'en prie.
Niquons la planète. Niquons la planète. Niquons la planète.
Il y a une dame, elle avait une bouteille en plastique et de marque Coca-Cola, on s'en fout. Et elle dit ça se recycle ça. Et puis il y a quelqu'un d'autre qui lui répond, en fait ça s'achète pas.
Mon poste de télé, je les vois me raconter des salades. Disent que la Terre est en danger, disent que notre planète est malade. Ils me font flipper ces écolos, à nous dire qu'on va tous crever. Faudrait qu'on roule tous à vélo, et pourquoi pas voter Beauvais. Moi je préfère rouler en humeur, manger des sandwichs OGM. Climat fond, 300 à l'heure, total GPS, GSM. Vu qu'on doit tous y passer, alors allons-y tous en même temps. Faisons pas les choses à moitié, profitons-en. Niquons la planète. Niquons la planète. Niquons la planète. Niquons la planète. I have a dream, j'ai fait un rêve d'une guerre mondiale nucléaire où les enfants d'Adam et Ève s'entretueraient comme des frères. I have a dream, oui j'ai rêvé d'un tsunami, tremblement de terre qui détruirait l'humanité, nous enverrait tous à l'enfer. Faisons péter la couche d'ozone, rasons tout, faisons place nette. Ne laissons surtout pas nos mômes le plaisir de payer nos dettes. I have a dream, je vous le dis, I have a dream, alléluia. Et quand viendra ce jour béni, prions pour voir ça.
Amen.
Niquons la planète. Et tant qu'à faire, faisons bien. Faisons pas les choses à moitié. Vu de façon, on va tous crever. Un seul objectif en tête. Niquons la planète.
Faisons l'amour à la terre. Des tonnes de pétrole dans la mer. Du CO2 dans l'atmosphère. Phosphore dans nos rivières, de la dioxine dans nos déserts, des piscines en plein désert, 50 degrés en plein hiver, et tant pis pour l'ours polaire, un ours, à quoi ça sert?
Niquons la planète.
C'est ma raison d'être.
Nous sommes ce matin et c'est toujours un plaisir de le recevoir. Il vient nous voir tous les ans, Patrick de l'émission H1000. Salut.
Bah et bonjour, bonjour à Radio Bartas, bonjour à vous et merci de me recevoir.
H1000, c'est tous les dimanches à 16h sur nos ondes. Ah, t'es à ta combientième de saison là ?
Alors en fait, je pense que je suis pas loin de ma 10e saison sur Bartas, peut-être. Ouais, si, ça fait à peu près, je pense, une dizaine d'années que vous me diffusez.
Si des auditeurs et des auditrices ne connaissent pas H1000, je vous invite vraiment à aller la découvrir. Mais comment tu pourrais décrire ton émission ?
Bah en fait, c'est une émission qui est en rapport avec la nature. Et bon, le leitmotiv de l'émission, c'est que le son remplace l'image. Donc en fait, il s'agit de restituer de manière la plus réaliste une carte postale sonore. Voilà.
C'est ça, une balade sonore en fait.
Balade sonore, une randonnée sonore. C'est-à-dire tous les ingrédients qui constituent une randonnée sont enregistrés, autant quelques commentaires que les oiseaux qui passent, le vent qui traverse les branches, la pluie, l'orage, la neige, enfin voilà.
Alors tu prends tout ton attirail et puis tu t'en vas. Comment tu choisis un peu les lieux que tu décides d'enregistrer?
Ah ben, les lieux, moi je suis passionné de montagne, donc c'est vrai que la plupart des émissions sont réalisées dans les Pyrénées, mais j'essaie d'ouvrir sur d'autres secteurs, notamment votre beau pays qui est la Lozère, Florac et tous ses environs, mais aussi je peux aller faire des prises de son en Bretagne, quelquefois dans des villes comme Prague. Cette année, il y aura une émission dédiée à cette belle ville qu'est Prague. Et en fait, je choisis les lieux en fonction de la richesse qui peut s'y trouver, richesse au niveau sonore, ce qui inclut donc la faune, la flore. Et ce que je peux dire, c'est que malgré tout, ça reste de plus en plus rare, enfin ça se raréfie parce qu'on sent que la biodiversité est en train de s'appauvrir. Alors là, il y a eu un sursis, c'est malheureux à dire, avec le Covid, le confinement, c'est-à-dire que les avions ne passent plus. Et en fait, l'ennemi du preneur de son, c'est les avions qui passent même à 10 000 mètres au-dessus de vos têtes. On les entend énormément avec les micros que j'utilise.
Voilà. Donc toi, tu as vraiment vu une grosse différence pendant toute la période de 2 mois, parce que tu me disais en antenne que tu avais continué de bosser.
Oui, tout à fait. En fait, la grande différence, c'est que tu ouvres ton micro et puis tu entends la nature sans aucune pollution sonore à des kilomètres à la ronde. Et ça, c'est assez extraordinaire. C'est comme si on revenait un peu à l'état originel. Et puis, j'ai constaté, ça ne veut pas dire qu'il y a plus d'oiseaux. C'est-à-dire que peut-être que comme il y a moins de bruit de fond, on y fait plus attention et surtout ben, les oiseaux sortaient au bord des routes. Et donc je me suis surpris à faire des H1000 à 3 km de chez moi sur une route départementale, mais il n'y avait aucune bagnole qui passait, quoi.
Ouais, ça doit être assez impressionnant. On parle souvent aujourd'hui, une expression à la mode, c'est le monde de demain, tu sais, le fameux. Toi, tu es plutôt inquiet.
Moi, je suis plutôt inquiet par rapport au monde de demain. En fait, moi, j'aime pas cette expression. En fait, quand j'ai commencé à faire cette émission, c'était une idée. L'idée était la suivante: comment essayer d'amener à des radios locales qui font la promotion de la création sonore, parce qu'il n'y a pas que sur France Inter et France Culture qu'on fait de la création sonore. Voilà, je l'ai dit. J'ai eu cette idée de mettre en œuvre une émission qui serait entre le reportage, la création sonore, et donc cette idée m'est venue puisque j'étais passionné de montagne, plutôt que de ramener des photos, de ramener en son mes pérégrinations sonores et montueuses, voilà. Et donc je constate aujourd'hui que cette émission, peut-être, mais je ne l'ai pas voulu, fait plaisir aux gens, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, nous sommes en manque de nature, d'autant plus que chaque jour, on nous alerte sur les problèmes environnementaux. Alors, c'est bien de nous alerter. Moi, je préfère choisir l'angle de la beauté, c'est-à-dire, humblement, je dis bien humblement, essayer de restituer une esthétique sonore de la nature afin de donner envie aux gens de la respecter, plutôt que de dire demain c'est fini, c'est foutu, voilà.
Oui, ça sert à Schmitt, c'est une vraie respiration aussi.
Ouais, c'est une respiration. Je pense que c'est une respiration et je pense qu'il est inutile de dire aux gens bon, il est interdit de faire ci, il est interdit de faire ça, plutôt les éduquer par une forme d'émotion, par une forme d'éducation à la beauté que la nature nous donne à voir, afin de la respecter.
Alors, tu parlais des radios locales et associatives, hein, et de ton amour pour ces dernières. Il y en a combien qui te diffusent aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, j'en ai entre 37 et 40 radios qui me diffusent, et H1000, je dois le dire aussi, grâce aux radios locales, est devenu un modèle économique, dans le sens où j'arrive à vivre de droits d'auteur, chichement. Voilà, je m'en tire un peu plus qu'un SMIC, mais ça me permet de vivre de cette passion. Et c'est pour ça que qu'il y a aussi un élan militant pour défendre la radio locale. Parce que voilà, c'est que les radios locales qui sont amenées à passer des programmes comme ça de 30 minutes. Si j'allais sur France Inter, on me dirait fais ton émission en 3-4 minutes.
C'est clair. Et justement, ouais, pour en vivre, tu passes par un organisme qui s'appelle l'ASCAM.
L'ASCAM, Société Civile des Auteurs Multimédia. C'est-à-dire, chaque fois que l'émission est diffusée sur votre antenne, vous me signez un certificat de diffusion annuel. J'envoie ça à l'ASCAM, c'est un peu comme le système SACEM, et on touche des droits d'auteur. Alors, je tiens à préciser, chers auditeurs, que les droits d'auteur sont très, très petits. Yes. C'est pas avec ça qu'on fait fortune. Non, ce que je pourrais dire, mais c'est un débat qu'on pourrait lancer, par exemple, je nomme encore France Inter, pourquoi ? Parce que c'est une radio dite publique, or sur la grille d'été, ils font que des rediffusions. Je pense qu'il est fort dommage qu'une radio publique ne lance pas un genre de projet national. Envoyez-nous des programmes, ils les sélectionnent. Même si on n'est pas rémunéré, je pense que ça ferait plaisir de savoir qu'en fait, il y a des programmes issus des radios locales qui peuvent passer à grande échelle.
Voilà. Après, il y a quand même aussi des choses bien qui existent pour nous. Hein. Nous, on a le FSER, le Fonds de soutien à l'expression radiophonique. Donc, je pense aussi, tu vois, ce qu'on appelle l'exception culturelle française, il y a quand même pas mal d'outils qui nous permettent de faire de la radio aujourd'hui.
Tout à fait. Justement, je pense qu'il faut défendre les radios locales et le fonds de soutien radiophonique. Ça, c'est tout à fait une vérité. Mais je trouve que les radios locales ne sont pas assez mise en avant. Lorsqu'on parle de radio ou de création radiophonique, on entend toujours un peu les mêmes sons de cloche. Or, la radio locale est un vivier de création, de promotion, d'émissions diverses et variées, je dirais inégalées, quoi, et inégalables.
Qu'est-ce qui t'a amené à la radio, finalement ?
Oh ben c'est tout simple, je m'amuse, enfin c'est pas que je m'amuse, je dirais par rapport à la jeune génération, puisque je commence à avoir quand même un certain âge, que lorsque j'ai commencé la radio libre en 83, c'était le mouvement de liberté des radios libres, si je faisais une analogie avec l'époque actuelle, la radio libre à l'époque, on considérait ça un peu comme le Facebook d'aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, au Facebook, on met tout et n'importe quoi. Mais la radio locale, c'était un peu tout et n'importe quoi. Tu voyais de la lumière, tu rentrais, tu disais « bah ouais, je vais faire une émission ». Et puis, bam, ça, on faisait l'émission comme ça. Il n'y avait pas forcément de projet écrit. On le faisait à la jamaïcaine, c'est-à-dire... en simultané, comme ça, et on passait la musique que l'on voulait, on disait ce que l'on voulait. Des fois, c'était pas très fin, mais on avait une liberté d'expression qui, aujourd'hui, quand même, me semble un peu réduite. C'est pas mal, parce que je pense que les radios locales aussi se doivent de se professionnaliser dans le sens quand même d'émissions qui soient constantes, suivies, bien construites, bien conçues. Pour autant, voilà, je ne suis pas nostalgique de cette période, mais c'est ce qui m'a amené à la radio locale, quoi, cette liberté d'expression. J'avais envie de passer mes vieux disques de Cure à l'époque où j'étais Batcave, Cure, Dead Kennedys, Suicide. Voilà, on passait Suicide à la radio, quoi, Alan Vega et compagnie. Puis on s'est suicidé en direct. Bon, voilà, quoi, tu vois, c'était des choses. Voilà, c'était la jeunesse, quoi.
Saison 2020-2021 d'H1000, alors peut-être pas décrire tous les épisodes parce qu'il y en a quand même un sacré paquet.
36, ouais. Ouais.
Peut-être deux ou trois que t'as vraiment aimé ou des coups de cœur que t'as eu.
Les Vosges, parce qu'à un moment donné, il y a un orage de grésil et donc le micro arrive à percevoir en même temps l'orage de grésil, le vent qui passe dans ces sapinières fabuleuses et on a l'impression qu'en fait c'est la mer, quoi. Parce que ça fait une onde de choc, comme une vague, quoi, qui arrive. Ça m'a beaucoup étonné. Et puis, en fait, toute la série, à partir de l'émission numéro 27, sur le confinement, où il y avait le printemps explosé dans ma belle Ariège. Et puis, peut-être une émission Première Neige. Les Premières Neiges, chaque année, je fais une émission Première Neige parce que je trouve que la métamorphose du paysage est tellement fabuleuse et cela s'entend aussi en son, quoi. C'est...
Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans la radio?
En fait, de ne pas chercher à copier ce que l'on entend. Encore une fois, attention à ce que je vais dire, parce que tout le monde se met sur maintenant les podcasts, le web, la web radio. Je dirais d'abord, allez ouvrir la porte d'une radio locale, parce que vous serez accueillis par des gens qui sont des professionnels de la radio et qui peuvent vous donner des conseils. Et qui peuvent vous aiguiller, sur une certaine manière de parler, une certaine manière d'enregistrer. Voilà ce que je reproche au podcast, qu'il y a tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, moi, je peux faire une radio musicale en passant les derniers mix de techno ou de musique électronique. C'est très intéressant, mais ça ne fait pas grandir la radio en tant que matière. Je pense que la matière radiophonique peut devenir un art. Et donc, je conseille aux gens d'aller pousser la porte des radios locales. Et puis après, soit un autodidacte. Maintenant, il existe aussi des écoles. Mais les écoles, attention au formatage. Moi, avant, on m'avait dit que mon émission était pourrie. Et maintenant, je pense qu'elle a fait ses preuves.
C'est clair, et c'est tous les dimanches à Schmil à 16h sur nos ondes. Et oui, auditeurs, auditrices, notre porte est vraiment toujours ouverte. Merci beaucoup, Patrick.
Mais merci à vous de me diffuser, puis vive la radio libre et locale.
C'est toujours un plaisir de te recevoir, et on se revoit bientôt dans un an.
Dans un an, lorsque le mont Lozère, chaque fois que j'arrive, il y a un orage. Qu'est-ce que c'est ce pays, quoi.
Bonne route à toi, Patrick.
Merci à vous.
Voilà, c'est la fin de cette matinale. On se retrouve évidemment lundi. Si vous le voulez, allez à L'Encrier, ce nouveau lieu qui ouvre avenue Jean Monestier jeudi à partir de 10h. Nous, on y sera à 11h avec les amis de Télédrive pour aller voir un peu à quoi ressemble ce lieu et ce qui va se passer là-bas. Cette émission est évidemment rediffusée jeudi, donc si vous êtes jeudi dans votre voiture à plus ou moins 17h30, eh bien, n'allez pas à L'Encrier, c'est déjà fini. Allez, il nous reste à vous souhaiter une excellente journée, profitez-en bien. Merci à toutes et tous de nous suivre. On se quitte avec Georges Brassens. Le morceau, c'est Oncle Archibald. Bonne journée, à lundi. Ciao.
Vous les arracheurs de dents, tous les cafards, les charlatans, les prophètes, comptez plus sur oncle Archibald pour payer les violons du bal à vos fêtes, à vos fêtes. En courant sus un voleur qui venait de lui chiper l'heure à sa montre. Oncle Archibald, coquin de sort, fit de sa majesté la mort, la rencontre, la rencontre. Telle une femme de petite vertu, elle arpentait le trottoir du cimetière. Aguichant les hommes en troussant un peu plus haut qu'il n'est descend, sensuaire, sensuaire. Oncle Archibald, un tongoyeur, lui dit va-t'en faire pendre ailleurs ton squelette. Fille des femelles décharnées, vive les belles, un tantinet, rondelette, rondelette. Leur montant sur ses grands chevaux, la mort brandit la longue faux d'agronome. Qu'elle serrait dans son linceul et faucha d'un seul coup le bonhomme. Comme il n'avait pas l'air content, elle lui dit « Ça fait longtemps que je t'aime. » Et notre hymen à tous les deux était prévu depuis le jour de ton baptême, ton baptême. Si tu te couches dans mes bras, alors la vie te semblera plus facile. Tu y seras hors de portée des chiens, des loups, des hommes et des imbéciles, imbéciles. Nul n'y contestera tes droits, tu pourras crier « Vive le roi !» sans intrigue. Si l'envie te prend de changer, tu pourras crier sans danger « Vive la Ligue, vive la Ligue !» Ton temps de dupe est révolu, personne ne se paiera plus sur ta bête. Les plaît-il maître auront plus court, plus jamais tu n'auras à court. Bella tête, et mon oncle emboîta le pas de la belle qui ne semblait pas si féroce. Et les voilà bras dessous, les voilà partis je ne sais où, faire leur noce, faire leur noce. Oh vous les arracheurs de dents, tous les cafards, les charlatans, les prophètes, comptez plus sur oncle Archibald pour payer les violons du bal à vos fêtes, à vos fêtes.
Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On va à la piscine ?
Oh la vache, je suis décalé total.
Radio Bartas, 107 FM.